tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. C'est le début de l'été. Alors j'aimerais parler sur un verset ou deux qui ont été cités mardi soir, mais je ne crois pas que c'est ni redondant ni interférent. Michael me dira en tout cas. On avait lu dans Proverbe chapitre 6, les versets 16 et 17, 18 aussi. Donc ça m'avait interpellé. C'est très simple, très très simple, très facile à comprendre. Vous ne pouvez pas partir d'ici en disant « j'ai rien compris ». Ça veut dire, si vous n'avez rien compris, c'est probablement vous dormiez. Donc voilà, parce que c'est clair comme tout. Donc Proverbe 6, 16, et vous savez combien les proverbes apportent au niveau de la sagesse, de la richesse, de l'analyse des hommes et des femmes, mais aussi de la relation avec Dieu. Et ces proverbes ont été écrits par Salomon, comme vous savez. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. C'est intéressant de voir que ça commence, ce petit paragraphe si simple, commence par « il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur ». Ça veut dire que dans le classement des choses dont Dieu a particulièrement horreur, se trouvent ces caractéristiques qu'on vient de lire. La question de savoir quelle est notre réaction à ça. Si on nous annonce, un médecin nous annonce qu'on a une grave maladie, ça joue un impact, n'est-ce pas ? Ça va. S'il nous dit les symptômes, voilà, je vais vous donner 6 symptômes et même 7 de quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous allez réagir en toute évidence. Vous n'allez pas dire, bon, c'est comme ça, je suis malade. Quand ça nous touche au niveau du corps, et c'est normal, on est très sensible, on réagit, on va essayer de remédier à ces problèmes-là. On va essayer de voir s'il y a un traitement, s'il y a une opération. Et malheureusement, souvent, quand il y a quelque chose de spirituel à changer, on est beaucoup plus soft, beaucoup plus lent à réagir, beaucoup moins interpellé. Et ça, c'est pas normal. Et ça ne doit pas être ainsi. Quand on voit que ces choses-là sont en horreur à l'Éternel, la première chose à faire chez soi, c'est d'ouvrir la Bible et de considérer chacun des points en disant « Seigneur, j'ai un problème là et je veux qu'il soit réglé. » Alors première chose, ça concerne les yeux. Dieu a horreur des yeux hautains. Alors c'est intéressant, il a horreur des yeux, d'une certaine forme d'œil. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est est-ce que je suis hautain? Est-ce que mes yeux sont hautains? Dieu nous a donné des yeux pour qu'on puisse voir. Mais son ministère dans le Nouveau Testament, le ministère de Jésus, était essentiellement... ou pas essentiellement, mais était composé de plusieurs guérisons d'aveugles. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. C'est donc le ministère, un des ministères de Jésus sur la terre. C'est toujours un ministère de Jésus dans nos vies. La question c'est, est-ce qu'on veut se laisser toucher les yeux? Vous allez dire, moi je ne suis pas orgueilleux, je ne regarde pas les autres de haut. Alors tant mieux si c'est le cas. Mais c'est ça que ça veut dire les yeux hautains. ça veut dire regarder les autres de haut, n'est-ce pas? Et si vous avez le vertige quand vous parlez à quelqu'un d'autre en disant « Oula, lui il est vraiment très bas, moi je suis très haut », il y a un grand problème à régler avec le Seigneur. Et ce problème, il est à régler immédiatement. Parce que c'est quelque chose dont l'Éternel a horreur. Est-ce que vous voulez que l'Éternel ait horreur de ce que vous faites? Ou est-ce que vous voulez qu'il approuve ce que vous faites? Dans le livre de Michée, vous connaissez bien ce verset, « On t'a fait connaître aux hommes, mais ça marche pour les femmes aussi. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. » Alors, il faut que je trouve Michée 6, voilà. « Ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et pourquoi il donne cette parole? Parce que dans le chapitre 6, juste avant ce verset qu'on connaît bien, eh bien, vous avez la repentance du prophète. Une repentance remarquable. Il dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier, devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? » Il était tellement sous la conviction du péché. Alors qu'il était, c'est le prophète qui écrit ça, c'est un prophète de Dieu, tellement sous la conviction du péché, qu'il était prêt à demander, à dire à Dieu, « Mais dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi, donne-moi la solution pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. » Et la réponse, elle est donnée, on l'a lu tout à l'heure. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. » Non, il n'attend pas que tu lui offres de l'huile, des sacrifices, parce que lui-même a payé, Dieu lui-même a payé. Le prophète dit, devrais-je donner mon propre fils? Et il y a cette voix qu'on entend dans la suite qui dit au fond, je vais donner mon propre fils pour ton péché. Mais ce qui me frappe, c'est la repentance. Et la repentance est méprisée souvent chez les chrétiens. Ils voient qu'il y a un problème, ils disent « Ah oui, mais ça c'est un problème que j'ai depuis longtemps. » Alors c'est un argument contre vous. Si vous avez ce problème depuis longtemps, alors pourquoi vous avez attendu si longtemps pour le régler? C'est pas parce que un problème date de longtemps qu'il est justifié, n'est-ce pas? C'est pas le temps, ça c'est évolutionniste. Les évolutionnistes croient que le temps fait des miracles extraordinaires. Non, c'est le temps va dégrader votre état. Et donc, si vous avez la même attitude que Michée, de vous humilier devant Dieu et de dire, avoir les regards hautains, j'ai regardé un frère, une sœur, en pensant que j'étais mieux, eh bien, vous vous repentez devant Dieu. Et l'amour fraternel, c'est précisément le fait de considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Et comme je dis toujours, il y a toujours quelque chose chez un frère ou une sœur qu'on a devant les yeux, que nous on n'a pas et qu'on devrait avoir et que cette sœur ou ce frère a. Et on doit convoiter. Vous allez dire, la convoitise, c'est pas bien. Mais si, quand vous convoitez la bénédiction de Dieu, quand vous convoitez une vie selon l'Esprit, vous convoitez quelque chose de bien, vous désirez, Seigneur, je veux ça. Je veux la bénédiction. Je veux recevoir ton Saint-Esprit. Je veux regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Le deuxième point, c'est la langue menteuse. Alors, vous voyez, le premier point, c'est que Dieu n'aime pas les yeux hautains. Il aime les yeux. Il aime qu'on le regarde. Et c'est très important. Vous savez, il y a des gens avec qui on parle, ils ont le regard fuyant. Ils n'arrivent pas à vous regarder. Notre chien est comme ça. Quand il a fait une bêtise et qu'on lui parle, les yeux vont un peu dans tous les sens, sauf dans le sens de celui qui lui parle. Et c'est un signe souvent qu'elle est coupable. Mais ici, la langue menteuse, c'est le mensonge et qu'est-ce qu'on peut dire, l'opposé, c'est un faible mot, mais de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand vous mentez, quel que soit l'arrangement, quel que soit l'emballage que vous avez fait autour de ce mensonge, vous avez menti. Et si vous avez menti, vous avez commis quelque chose qui est en horreur à l'Éternel. Et c'est normal que ce soit en horreur à l'Éternel, parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, la réalité. Et il y a beaucoup de gens qui flirtent avec le mensonge, qui disent des choses, mais c'est en fait, la personne va croire, va comprendre quelque chose de différent de ce que vous avez prononcé. Et là aussi, il y a besoin de se repentir pour le moindre mensonge que vous avez prononcé. J'ai déjà dit plusieurs fois que je connaissais une personne qui s'est convertie et avant sa conversion, elle utilisait le mensonge très régulièrement. C'était son habitude. On ne peut pas blâmer parce qu'elle n'était pas au Seigneur, cette personne. Et c'est naturel que si on appartient au père du mensonge, on ment. Et elle avait cette habitude et quand elle s'est convertie, le Seigneur n'a pas immédiatement délivré de cette habitude qui était venue un réflexe. Et le mensonge, quand elle s'était convertie, sortait plus vite que ce qu'elle voulait. Et le Seigneur lui a dit, « Eh bien maintenant, quand tu mens, tu vas dire à la personne après, « Je suis désolé, je t'ai menti. » Je crois qu'il a fallu qu'une seule fois et le problème était réglé pour la vie. Mais est-ce qu'on est conscient que le mensonge, c'est grave? Que le mensonge, c'est quelque chose qui devrait nous pousser, comme le prophète Michée, à être à genoux et demander « Mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» Mais on dit souvent « Oh, c'est un petit mensonge, c'est tout. Je ne mens pas d'habitude, mais là j'ai menti. » Eh bien, ça suffit. Vous savez que la transgression d'un commandement de Dieu suffit pour considérer que vous avez transgressé toute la loi. C'est dur, n'est-ce pas? On a tendance à dire, j'ai un commandement que j'ai pas transgressé. Donc, je dois être saint. Mais quand vous avez transgressé un seul commandement, c'est toute la loi que vous avez foulée aux pieds. La langue menteuse. C'est lié aussi au faux témoignage. Vous savez que un des commandements, des 10 commandements, c'est « Tu ne porteras pas de faux témoignage. » Et quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous répétez à quelqu'un d'autre l'information, mais en interprétant, en modifiant selon ce que vous avez compris, vous êtes potentiellement en train de faire un faux témoignage. Et là aussi, il doit y avoir très grande prudence. Vous savez, si vous lisez Acte 5, vous avez le récit d'Ananias et Saphira. Et ça fait trembler. Parce que jamais il y a eu de jugement semblable, en tout cas porté à notre connaissance. Mais c'était le cas pour eux, parce qu'ils ont donné un faux témoignage, parce qu'ils ont menti pour faire croire qu'ils étaient plus spirituels qu'ils ne l'étaient. Et le Seigneur a condamné, quand il était sur la terre, l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, ça veut dire faire du théâtre. C'est faire croire qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas. Là aussi, on a tellement besoin que le Seigneur nous change et nous travaille là-dessus. Mais si vous passez l'été à travailler sous chacun de ces aspects-là, en disant « Seigneur, je veux que ça change », eh bien, en septembre, on va se retrouver et on va dire « Mais qu'est-ce que tu as changé ?» Ça fait du bien. Tu apportes quelque chose de nouveau. Bien sûr, ce qu'il aime, c'est la langue qui glorifie le Seigneur, qui annonce des bonnes nouvelles, qui dit la vérité. Et là, il y a une cohérence avec Jésus, il y a une unité avec Jésus, parce qu'il y a la vérité qui est prononcée. Et ça, c'est une bénédiction pour chacun. Donc on a vu les yeux, on a vu la langue. Et il a horreur des mains qui versent le sang innocent. Alors vous allez dire, là c'est bon. J'ai jamais tué quelqu'un. Je pense qu'on se trompe largement sur ce point-là. Parce que, vous savez, dans Jérémie, ceux qui ont comploté contre Jérémie, ils ont dit « tuons-le avec la langue ». Il ne s'agit pas d'armes blanches, il ne s'agit pas d'armes à feu, il s'agit d'armes charnelles. Mais on peut utiliser la langue pour tuer quelqu'un. Et donc, on verse le sang. Et c'est nos mains dans le sens où c'est nous qui avons fait ce mal. Quand vous donnez à quelqu'un une parole dure, avec dureté, vous faites du mal à la personne. Quand vous critiquez une personne, vous allez dire « Mais non, mais je la critique jamais devant elle, donc elle ne sait pas que je critique. » Mais quand vous critiquez une personne, c'est Jésus-Christ que vous critiquez. Si vous donnez un verre d'eau au plus petit, alors ça on aime bien citer comme verset, parce qu'on se dit, ah ben ça, Seigneur, il est content de moi, j'ai donné un verre d'eau une fois à un chrétien, et donc c'est très bon. Si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à Christ que vous avez donné le verre d'eau. C'est bien. Mais si vous critiquez l'un de ses plus petits, c'est Dieu que vous critiquez. C'est Christ que vous critiquez. Et bien sûr, quand vous rencontrerez le Seigneur, vous allez dire, mais quand est-ce que nous t'avons critiqué? Eh bien, c'est à chaque fois que vous avez critiqué l'un de ses plus petits, ou dit du mal, diffamé. Eh bien, c'est à Christ que vous avez fait ça. Prenez conscience de ça. C'est sérieux. C'est pas un détail. C'est sérieux. Le psaume 24 dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur et qui ne jure pas pour tromper. » Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il y avait deux hommes dans l'Ancien Testament qui ont pu monter à la montagne de l'Éternel de deux façons différentes. Moïse est monté en hauteur à la montagne de l'Éternel. Et Élie est allé jusqu'à la montagne de l'Éternel, horizontalement. Moïse, c'était verticalement. Élie, c'était horizontalement. Et là, c'est Dieu qui s'est révélé à eux. Mais vous savez qui était avec sur la montagne de transfiguration avec Christ? Il y avait Moïse et Élie. C'est ceux qui avaient les mains innocentes et le cœur pur qui ont pu monter à la montagne de l'Éternel. Est-ce que vous voulez être là, à la montagne de l'Éternel où Dieu se révèle, où Moïse demandait à Dieu, « Fais-moi voir ta face. » Où Élie recevait la parole de Dieu directement et où il a senti la présence de Dieu dans un murmure doux et léger. Et il a été transformé par l'Esprit de Dieu. Dieu a horreur les mains, oui, qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes. C'est ton cœur qui peut susciter l'horreur chez Dieu, parce qu'il y a des projets injustes. Il y a des choses qui ne sont pas droites. Il y a des choses qui ne sont pas selon Dieu. La justice dans la Bible, c'est le contraire de l'iniquité, qui est appelée injustice aussi. Et ici, dans nos cœurs, est-ce qu'on médite des choses qui sont de l'ordre de l'iniquité, des mauvaises pensées, des choses impures? Est-ce qu'on on les entretient, n'est-ce pas? On les cultive. Que vous ayez des mauvaises pensées, ça s'explique par apprentissage. On vit dans une société où il y a tellement de choses mauvaises que les pensées peuvent venir. Mais il y a une différence entre celui qui les entretient et celui qui les reçoit ponctuellement, mais qui demande immédiatement au Seigneur de pardonner et de laver, de faire oublier ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu. Et enfin, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Oh, il y a des gens qui sont très très promptes à se diriger vers un groupe qui commence, qui répand des rumeurs, des paroles sur un frère, sur une sœur. Il y a des gens qui se dépêchent pour aller écouter. Quelquefois, on peut faire aussi des choix dans la vie qui nous font courir vers le mal, alors que notre course, elle est céleste. On doit courir vers Jésus. On doit courir vers l'éternité, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas la vie seulement, la vie qu'on aura après la mort. C'est la vie qu'on a à la nouvelle naissance, qui est la vie éternelle. Il est venu, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On doit courir dans la carrière qui nous est ouverte, dit Hébreux 12, les regards fixés sur Jésus. On doit courir vers Jésus, les regards fixés vers Jésus. Le faux témoin, c'est le dernier point qu'on a déjà mentionné. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. Dans le milieu évangélique, il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui font des conflits entre frères, des gens qui créent des divisions, et c'est souvent parce qu'ils ont, la personne a envie d'avoir le pouvoir, la responsabilité de l'Église ou une responsabilité dans l'Église. Eh bien, tout ça n'est rien à faire avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de service. C'est l'Esprit qui consiste, comme dans Jean chapitre 13, à prendre une serviette et à commencer à laver les pieds des frères et sœurs. C'est ça l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de domination. C'est l'esprit de soumission et l'esprit d'humilité. Rappelez-vous dans Michée, on attend de toi que tu marches humblement avec ton Dieu. On n'attend pas que tu sois quelqu'un de grand. On se méfie des gens qui sont des grands chrétiens, des grands spirituels. Combien de gens sont tombés parce qu'ils étaient perçus comme des grands. Mais si on vous connaît comme un serviteur, une servante, on vous connaît comme quelqu'un qui va laver les pieds de ses frères et sœurs, c'est là où vous avez la manifestation de la vie de Jésus en vous. Et c'est là où vous êtes une bénédiction pour les autres et pour l'Église. Amen.